Je vais démarrer la lecture de la partie 3 du Vaillant Petit Tailleur. Souviens-toi, à la fin de la partie 2, le petit tailleur avait rencontré le roi et le roi lui avait demandé de chasser deux géants de la forêt en contrepartie du mariage avec sa fille. Nous en étions là. Je poursuis la partie 3, la lecture de la partie 3. Il se mit donc en marche, suivi des 100 cavaliers. Quand on fut arrivé à la lisière de la forêt, il leur dit de l'attendre et qu'il viendrait à bout des géants à lui tout seul. Puis il entra dans le bois en regardant avec précaution autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les deux géants endormis sous un arbre et ronflant si fort que les branches en tremblaient. Le petit tailleur remplit ses deux poches de cailloux et montant dans l'arbre sans perdre de temps, il se glissa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus des deux dormeurs et laissa tomber quelques cailloux, l'un après l'autre, sur l'estomac de l'un d'eux. Le géant fut longtemps sans rien sentir, mais à la fin il s'éveilla et poussant son camarade, il lui dit « Pourquoi me frappes-tu »« Tu rêves, dit l'autre, je ne t'ai pas touché. » Ils se rendormirent. Le tailleur se mit alors à jeter une pierre au second. « Qu'y a-t-il ? » s'écria celui-ci. « Qu'est-ce que tu me jettes ?»« Je ne t'ai rien jeté, tu rêves, » répondit le premier. Ils se disputèrent quelque temps, mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par s'apaiser et se rendormir encore. Cependant, le tailleur recommença son jeu, et choisissant le plus gros de ses cailloux, il le jeta de toutes ses forces sur l'estomac du premier géant. « C'est trop fort !» s'écria celui-ci, et se levant comme un forcené, il sauta sur son compagnon qui lui rendit la monnaie de sa pièce. Le combat devint si furieux qu'ils arrachèrent des arbres pour s'en faire des armes, et l'affaire ne cessa que lorsque tous les deux furent étendus morts sur le sol. Alors, le petit tailleur descendit de son poste. « Il est bien heureux, pensait-il, qu'il n'ait pas aussi arraché l'arbre sur lequel j'étais perché. J'aurais été obligé de sauter sur quelque autre comme un écureuil, mais on est leste dans notre métier. » Il tira son épée et après en avoir donné à chacun d'eux un couple de bons coups dans la poitrine, il revint trouver les cavaliers et leur dit « C'est fini, je leur ai donné le coup de grâce. L'affaire a été chaude, hein. Ils voulaient résister, ils ont arraché des arbres pour me les lancer. Mais à quoi servirait tout cela contre un homme comme moi qui en abat 7 d'un coup ?»«
N'êtes-vous pas blessé ?» demandèrent les cavaliers.
« Oh non, dit-il, je n'ai pas un cheveu de dérangé. » Les cavaliers ne voulaient pas le croire. Ils entrèrent dans le bois et trouvèrent en effet les géants nageant dans leur sang et les arbres abattus de tous côtés autour d'eux. Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi. Mais celui-ci, qui se repentait d'avoir engagé sa parole, chercha encore à se débarrasser du héros. « Il y a, lui dit-il, une autre aventure que tu dois venir... Pardon. Il y a, lui dit-il, une autre aventure dont tu dois venir à bout avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume. Mes forêts sont fréquentées par une licorne qui y fait beaucoup de dégâts. Il faut t'en emparer. »
« Une licorne me fait encore moins peur que deux géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. »
Il prit une corde et une hache et entra dans le bois en ordonnant à ceux qui l'accompagnaient de l'attendre au dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne apparut bientôt et elle s'élança sur lui pour le percer.
« Oh, doucement, doucement, dit-il, trop vite ne vaut rien. »
Il resta immobile jusqu'à ce que l'animal fût tout près de lui. Et alors il se glissa lestement derrière le tronc d'un arbre. La licorne, qui était lancée de toutes ses forces contre l'arbre, y enfonça sa corne si profondément qu'il lui fut impossible de la retirer et qu'elle fut prise ainsi. « L'oiseau est en cage !» se dit le petit tailleur. Et sortant de sa cachette, il s'approcha de la licorne, lui passa sa corde autour du cou, à coups de hache, il débarrassa sa corne enfoncée dans le tronc et quand tout fut fini, il amena l'animal devant le roi. Mais le roi ne pouvait pas se résoudre à tenir parole. Il lui posa encore une troisième condition. Il s'agissait de s'emparer d'un sanglier qui faisait de grands ravages dans les bois. Les chasseurs du roi avaient ordre de prêter main forte. Le tailleur accepta en disant que ce n'était qu'un jeu d'enfant. Il entra dans le bois sans les chasseurs et ils n'en furent pas fâchés, car le sanglier les avait déjà reçus maintes fois de telle façon qu'ils n'étaient nullement tentés d'y retourner.
Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se précipita sur lui en écumant et en montrant ses défenses aiguës pour le découdre. Mais le léger petit homme se réfugia dans une chapelle qui était là tout près et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier y avait pénétré derrière lui, mais en deux bonds, le tailleur revint à la porte et la ferma, de sorte que la bête furieuse se trouva prise, car elle était trop lourde et trop massive pour s'enfuir par le même chemin. Après cet exploit, il appela les chasseurs pour qu'ils vissent le prisonnier de leurs propres yeux, et il se présenta au roi, auquel force fut cette fois de s'exécuter malgré lui, et de lui donner sa fille et la moitié de son royaume. Il eut bien plus de mal encore à se décider s'il avait su que son gendre n'était pas un grand guerrier, mais un petit manieur d'aiguille. Les noces furent célébrées avec beaucoup de magnificence et peu de joie, et d'un tailleur on fit un roi. Quelque temps après, la jeune reine entendit la nuit son mari qui disait en rêvant « Allons, garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. » Elle comprit ainsi dans quelle arrière-boutique le jeune homme avait été élevé, et le lendemain, elle alla se plaindre à son père, le priant de la délivrer d'un mari qui n'était qu'un misérable tailleur. Le roi lui dit pour la consoler « La nuit prochaine, laisse ta chambre ouverte. Mes serviteurs se tiendront à la porte et quand il sera endormi, ils entreront et le porteront chargé de chaînes sur un navire qui l'emmènera bien loin. » La jeune femme était charmée, mais l'écuyer du roi, qui avait tout entendu et qui aimait le nouveau prince, alla lui découvrir le complot. « J'y mettrai bon ordre, lui dit le tailleur. » Le soir, il se coucha comme à l'ordinaire, et quand sa femme le crut bien endormi, elle alla ouvrir la porte et se recoucha à ses côtés. Mais le petit homme, qui faisait semblant de dormir, se mit à crier à haute voix. « Allons, garçon, termine cette veste et ravaude cette culotte, ou sinon je te donne de l'aune sur les oreilles. J'en ai abattu sept d'un coup. J'ai tué deux géants, chassé une licorne, pris un sanglier. Aurais-je donc peur des gens qui sont blottis à ma porte ?» En entendant ces derniers mots, ils furent tous pris d'une telle épouvante qu'ils s'enfuirent comme s'ils avaient eu le diable à leur trousse et que jamais personne n'osa plus se risquer contre lui. Et de cette manière, il conserva toute sa vie la couronne. Voilà, le conte est terminé. Je vais maintenant te poser deux questions sur cette troisième partie. La première question. Quelles sont les deuxième et troisième conditions que le roi impose au petit tailleur? Deuxième question. Explique quel complot se trame contre le petit tailleur une fois marié avec la princesse.